Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, la plus haute instance judiciaire du pays reproche au Parlement de ne pas avoir demandé des comptes au président Jacob Zuma sur un scandale provoqué par la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable. Un jugement qui pourrait déboucher sur une procédure de destitution. C'est un juge de la Cour constitutionnelle, Chris Jafta, qui a fait cette déclaration dans un jugement retransmis par les principales chaînes de télévision du pays. Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntoumi s'est prononcé sur l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, signé le 23 décembre, entre ces rebelles et le gouvernement. Il a donné les précisions suivantes.
Nous prenons acte de la volonté de deux parties de désamorcer la crise et de rendre permissif le processus de paix dans le département du Pôle, en jugeant nécessaire d'arrêter les hostilités. Mais, compte tenu du fait que le texte avant sa signature ne nous a pas été soumis et ne fait pas ressortir nos préoccupations majeures, nous exigeons la mise en place d'une commission mixte et paritaire de travail qui sera composée des mandataires du gouvernement et des émissaires mandatés par mes soins qui vont se joindre à ceux qui sont sortis des prisons. Cette commission aura vocation de revoir et de corriger le corps de tout le texte en prenant en compte les points suivants. Le règlement politique de la situation sous l'observation internationale, les levées des mandats d'arrêt et de la suspension du CNR, la réinsertion politique et la réinsertion socio-économique, le retrait de troupes dans les zones où il n'y avait pas leur présence avant la guerre, la libération de tous les détenus politiques, l'assistance multiforme des populations sinistrées du département du Pôle. L'organisation du dialogue national inclusif sous l'observation internationale.
Le pasteur Ntoumi, chef des rebelles du Pôle au Congo-Brazzaville. Cameroun, l'armée camerounaise dit avoir libéré 17 personnes prises en otage par des groupes armés centrafricains dans la région de l'Adamawa. Opération qui a fait un mort et 4 blessés. Mais Yaoundé souligne que des centaines d'autres Camerounais seraient toujours aux mains de ces groupes armés. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
Les blessés de l'opération menée près de la frontière centrafricaine ont été admis à l'hôpital de la mission norvégienne de Ngaoundéré, a expliqué le docteur Yali Bin Yamazani, un des médecins de l'établissement.
On nous a amené 4 malades, comme celui-ci qui est là. Il y a d'autres qui ont un problème de fracture au niveau du membre supérieur. Mais généralement, ils sont stables.
Ahmed Ousseni, un commerçant de 24 ans, affirme qu'il faisait partie des otages retenus dans le camp pris d'assaut par les troupes camerounaises.
Au départ, nous étions 5. Puis 5 autres nous ont rejoints. Puis 8 autres. Donc nous étions à 18 otages.
Voilà,
c'est derrière la montagne que les forces de
Ousseni rapporte que les otages avaient droit à un repas par jour lorsqu'il y avait à manger. Ils étaient souvent menacés de mort, mais jamais battus, a indiqué l'ex-otage. Le gouverneur de la région de la Damawa, Kil Dadi Tagekeboukar, assure pour sa part que le gouvernement a pris toutes les mesures pour protéger la population. Les opérations militaires se poursuivent pour retrouver les autres otages, a-t-il dit.
Je voulais féliciter le commandant de la 31e Brim qui a mené cette action et a libéré plus de 17 otages. Par cet acte-là, les forces démontrent qu'elles sont en alerte, que tous les actes posés peuvent être réprimandés. Par ces dernières.
Selon des militaires camerounais, plusieurs ravisseurs portant des uniformes de l'armée camerounaise ont été tués et certains se sont enfouis en République centrafricaine. Les groupes armés centrafricains font des incursions en territoire camerounais pour enlever du bétail et des commerçants en vue d'exiger des rançons. Le Cameroun partage une frontière de 900 km avec la RCA et accueille actuellement 350 000 réfugiés fuyant les violences dans ce pays voisin.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, le comité des laïcs catholiques a appelé à une marche à travers le pays le 31 décembre 2017, date anniversaire de la signature de l'accord politique visant à sortir le pays de la crise. Léonie Kondolo, porte-parole du comité laïque de coordination de l'Église catholique, donne les précisions suivantes sur cette initiative.
Bon, disons que tous les politiciens qui viendront marcher ne viennent pas en tant que politiciens, ils viennent en tant que chrétiens ou en tant que croyants. Donc déjà, la raison pour laquelle ils viennent, pour leur visibilité, ils seront là en tant que croyants. Mais aucun politicien ne peut afficher d'un signe ou d'emblème d'un parti politique. C'est-à-dire que tous ceux qui vont marcher, quelle que soit votre orientation politique, votre vision, même les acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, personne ne peut porter un vêtement avec une inscription dessus. Et pour ceux qui n'ont pas de panne d'église, on leur demande de porter des chemises ou des t-shirts blancs.
Léonie Kandolo, porte-parole du comité laïque de coordination de l'église catholique à Kinshasa. Ouganda, la police ougandaise a annoncé aujourd'hui avoir inculpé pour terrorisme 45 citoyens rwandais qui avaient été arrêtés le 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Ces 45 Rwandais vivent en Ouganda et affirment qu'ils se rendaient en mission évangélique en Tanzanie, mais le Rwanda les accuse d'être des membres du Congrès national du Rwanda, RNC, parti d'opposition en exil formé par d'anciens proches du président rwandais Paul Kagame et que Kigali qualifie de terroristes. Afrique de l'Ouest maintenant, au Libéria, large victoire du sénateur George Weah au second tour de la présidentielle de mardi. La légende africaine du football a battu le vice-président sortant Joseph Boakai. Les détails avec Eric Manirakiza.
Les résultats provisoires publiés portaient sur la compilation de 98,1% des suffrages exprimés. L'ex-star du football, George Weah, est crédité de 61,5% contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. La commission électorale nationale rendra aujourd'hui les résultats définitifs qui seront transmis à la Cour suprême pour validation. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a déjà mis en place une équipe de transition composée de plusieurs ministres qui est chargée d'organiser un transfert ordonné du pouvoir à son successeur le 22 janvier. Le Libéria n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944. Près de trois décennies après le début d'une guerre civile, Moronvia s'apprête à vivre une transition du pouvoir en douceur entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique. Toutes les missions d'observation et le secrétaire général Antonio Guterres ont salué la tenue pacifique et transparente du scrutin. Organisé au lendemain de Noël, le second tour avait été reporté de cette semaine. Plusieurs candidats avaient contesté les résultats du premier tour du 10 octobre.
En Égypte, nouvelle perte dans les rangs de l'armée égyptienne dans le Sinaï. 6 militaires, dont un officier, ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole de l'armée, l'explosion visant les forces de sécurité a eu lieu lors d'une opération menée contre des terroristes dans la région du Nord Sinaï. Toutefois, Tamer el-Refai n'a pas précisé la date de l'opération. Dans une opération militaire distincte, 3 militants transportant à bord de véhicules des armes, des munitions et des engins explosifs ont été tués, a ajouté le porte-parole. Depuis la destitution en 2013 par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité affrontent dans cette région de l'Est égyptien des groupes extrémistes dont la branche égyptienne du groupe État islamique. Des centaines de policiers et de soldats sont morts dans ces attaques.
Actualité aux États-Unis, le président Donald Trump a vivement dénoncé jeudi la position de Pékin qui empêche selon lui toute solution amicale dans le dossier nucléaire nord-coréen. Un changement de ton pour le chef de l'exécutif américain qui louait dernièrement les efforts chinois pour faire pression sur Pyongyang, Arzuma Compaoré.
Pris la main dans le sac, a lancé le président américain sur Twitter, se disant très déçu de voir la Chine permettre au pétrole d'entrer en Corée du Nord. Il n'était pas clair dans l'immédiat si le président américain faisait référence à des preuves en possession des États-Unis d'un éventuel non-respect par la Chine des sanctions internationales. Des sanctions contre la Corée du Nord qui ont par ailleurs été durcies par le Conseil de sécurité de l'ONU le 22 décembre par un vote unanime sur une résolution américaine, juste à la suite des négociations entre les États-Unis et la Chine. Selon Washington, seule une vraie pression de la part des Chinois et un embargo pétrolier strictement respecté peuvent faire plier Kim Jong-un et le pousser à négocier l'abandon de son programme nucléaire. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a dans une tribune publiée par le New York Times estimé que même si Pékin a appliqué certaines interdictions d'importation et sanctions, il peut et devrait continuer à faire plus.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.